Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui au nouveau livre d'Evelyne Sulro, Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille, paru en avril 2006 aux éditions Fayard. Evelyne Sulro, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Academy. Je précise que vous êtes sociologue et fondatrice en 1955 et puis présidente d'honneur du Mouvement français pour le planning familial dont nous venons de fêter les 50 ans d'existence. Vous êtes également membre honoraire du Conseil économique et social et puis vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous avez rédigé de nombreux ouvrages où les thèmes sont souvent l'émancipation des femmes dans la société à travers leur travail, à travers la formation professionnelle. Est-ce que, pour commencer cette émission Au fil des pages, Evelyne Sulro, vous pourriez nous présenter votre ouvrage « Pilule, sexe, ADN » ?
Eh bien, puisque le premier mot est « pilule », je reprendrai ce que vous venez de dire. C'est vrai que je suis fondatrice, cofondatrice, avec le docteur Marie-André Veilhallet du planning familial, mais je n'y appartiens plus. Parce que justement, ce que nous avons voulu faire en 1956 et poursuivi a été un peu dévié, déformé, et ce sera une partie donc de mon récit, puisque s'il s'agit d'un récit qui montre que véritablement la famille, c'est-à-dire père, mère, enfant, a été complètement bouleversée dans ses 40 dernières années, dans tous ses aspects, c'est-à-dire aussi bien l'idéologie, les idées, les sentiments, les faits, etc. Et au fur et à mesure que je vais très rapidement évoquer cette histoire, je donnerai des chiffres pour montrer que ce qui change, c'est énorme. Ce sont justement...
Ce ne sont pas simplement que des paroles.
Voilà, ce sont des centaines de milliers de naissances, de mariages, de divorces, d'enfants, etc., etc. Et surtout, je voudrais montrer comme on a de plus en plus favorisé le couple, c'est-à-dire, en somme, ce qui traverse la famille, plutôt que la chaîne du tissu, c'est-à-dire les parents, enfants, etc., la chaîne longitudinale. Or, la famille est toujours une lignée, mais maintenant, il y a de plus en plus d'enfants séparés de leurs parents par la volonté, donc, des adultes. Parce que pendant des millénaires, il y avait des enfants orphelins, il y avait des marâtres et des parâtres, etc. Mais c'était à cause de la mort qui venait rompre
le schéma familial.
Tandis que maintenant, les bouleversements viennent de l'intérieur de la famille. Et surtout, je voudrais insister là-dessus, c'est pourquoi j'ai fait ce livre, à partir de découvertes scientifiques. Ce sont donc des découvertes scientifiques biologique, par exemple, comment on peut agir sur le processus de procréation. C'est ce qui a donné donc la pilule, la contraception, et ce qui est un formidable changement.
C'est donc la prévention.
Voilà. Et d'autre part, comment est-ce que maintenant on peut être absolument certain de qui est le père d'un enfant, ce qui est la première fois depuis que le monde est monde. Parce que depuis des millénaires, le père était toujours incertain.
Ce sont les fameux tests ADN.
C'est l'ADN. Bon, mais donc, deux découvertes scientifiques, et entre deux, nous allons voir ce que j'appelle la révolution sexuelle, qui, elle, est peut-être réversible. On n'en sait rien, nous nous interrogerons. Mais en tout cas, la révolution contraceptive permettant la contraception est irréversible, et la révolution génétique permettant donc de connaître les parents et de retracer toutes les lignées, elle est irréversible aussi. Donc nous sommes dans une phase complètement nouvelle. Maintenant, je voulais dire que ce qui m'a fait aussi écrire ce livre, c'est que dans cette histoire, il y a les parents, les femmes, les hommes, donc les pères, les mères et les enfants. Et les enfants actuellement ne vont pas bien. Il y a véritablement un nombre très important d'enfants qui psychiquement et même socialement, en socialisation défectueuse, si vous voulez, ne vont pas bien. Et je pense que la famille y est pour beaucoup, comme cause et comme remède. Elle est importantissime, à la fois comme cause de ces difficultés et comme remède à imaginer.
Alors, nous allons pouvoir en reparler. Dans votre ouvrage, donc « Sexe, pilule, ADN », vous avez donc réalisé cet ouvrage en quatre grandes parties. La période pré-révolutionnaire, sur laquelle nous allons pouvoir nous attarder, la révolution contraceptive, la révolution sexuelle que vous venez d'aborder et la révolution génétique également que nous vivons
c'est ça.
Actuellement.
C'est-à-dire que ce que j'appelle la période révolutionnaire, c'est ce qui va de 1945 à 1965. En 65 arrive la pilule, en 75 à peu près la révolution sexuelle et en 85 on commence à s'occuper de l'ADN et de son influence sur la famille. Donc, vous voyez que ça retrace avec une très grande rapidité des changements fondamentaux.
Alors, venons-en à cette période pré-révolutionnaire. Nous sommes à ce moment-là dans les années 40.
Juste après la guerre.
Juste après la guerre.
Dans un pays ruiné.
Dans un pays ruiné. Voilà, quelle est la situation de la France à ce moment-là ? C'est une France ruinée.
Oui, surtout les jeunes qui m'écoutent, je voudrais qu'ils essayent d'imaginer un pays dont toutes les structures sont par terre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train,
plus d'infrastructures,
il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de rien n'est possible. On est horriblement mal logé parce que pendant 5 ans, beaucoup de maisons ont été détruites et aucune n'a été construite. Et donc, il y a une crise du logement dont ils n'ont pas idée. Pour donner une idée, et toujours en citant des chiffres, un couple sur deux en 1950, un couple sur deux doit loger dans une pièce chez les parents et n'a pas de maison.
Ils vivent certainement très serrés.
Un couple sur deux n'a pas l'eau courante. Donc, il faut s'imaginer que parler, par exemple, d'émancipation de la femme à ce moment-là...
À ce moment-là, ce n'est pas vraiment d'actualité.
L'émancipation de l'homme non plus, d'ailleurs, parce que le travail était extrêmement mal payé et de très longue durée. Les hommes travaillaient
48 heures
par semaine en moyenne. Donc beaucoup travaillaient des 50-60 heures par semaine. Alors, ces jeunes, ils sortent d'une période où ils n'ont jamais eu de loisirs, où il y avait le couvre-feu tous les soirs, et où donc on ne pouvait pas sortir, etc.
Il y avait encore le couvre-feu.
Et il y a encore eu le couvre-feu, les restrictions, etc., etc. Et qu'est-ce que ça signifiait pour des jeunes dans la perspective justement du mariage de la famille? C'était en somme une dimension qui permettait de se libérer de tout ça, c'était l'amour. Et ça a été pour les Français sous l'occupation une sorte d'extraordinaire liberté qu'ils ont prise au nez à la barbe de l'occupant. Alors cela s'est traduit par exemple par des films superbes que d'ailleurs j'engage beaucoup les jeunes à aller revoir comme Les Enfants du Paradis, L'Éternel Retour, Les Visiteurs du Soir. Disons que ce sont des films où toujours il y a un couple qui s'aime d'amour pur, d'amour vrai, et qui est finalement transcende absolument toutes les difficultés. C'est un petit peu comme des contes de fées, mais c'est le couple amoureux, mais je dis bien amoureux, pas sexuellement, qui va tout sauver. Et ça se traduit dans la vie quotidienne, par exemple, partout on avait les dessins des amoureux de Penney, qui étaient deux petits amoureux qui se donnaient la main, etc., etc. Donc c'est une période extraordinairement sentimentale, où on chantait d'ailleurs un tango célèbre qui était sentimental, et où on s'est engagé, j'insiste sur le mot...
L'engagement.
L'engagement très jeune, des jeunes gens et des jeunes femmes, mais d'une manière imprudente, avec une sorte de goût du risque, parce qu'on n'avait rien à perdre. Et donc, on s'engageait d'autant plus. Je voudrais par exemple rappeler que des milliers de jeunes filles se sont mariées pendant la guerre à des soldats qui étaient prisonniers en Allemagne et qu'elles ne pouvaient ni voir, ni savoir si elle le verrait jamais, ni elle ne pouvait pas les rencontrer, elle ne pouvait pas leur écrire des grandes lettres, il y avait juste des, elle ne pouvait pas leur téléphoner.
Bon. Oui, le téléphone, effectivement.
Et les jeunes gens, dans leur stalag, leur camp de prisonniers, s'engageaient aussi pour la vie, comme ça. Et tout d'un coup, ils se mettaient une alliance qui était la seule chose personnelle. Ils étaient en uniforme de prisonniers.
Qui pouvait les rattacher à la vie, finalement.
Qui pouvait les rattacher, non seulement à la vie, mais à l'avenir.
À l'avenir.
Disons que c'est une génération où on s'est beaucoup engagé. Engagé, c'est dire « je promets, demain, etc. » Alors, il y a eu, par exemple, des engagements politiques très forts pour le Parti communiste ou au contraire, etc., comme dans la résistance. Des engagements de toutes sortes. Mais sur le plan de la famille, il y a eu une sorte de folie du mariage juste à la libération. Alors, cloches n'arrêtaient pas de sonner.
C'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage, justement. Voilà, c'est les cloches sonnent
sans
arrêt.
Oui, parce que 90% des mariages se faisaient à l'église. Et il y a eu un taux de nuptialité, c'est-à-dire un nombre, une proportion de gens qui se mariaient, qui a dépassé la moyenne possible, parce qu'on s'est mariés de plus en plus jeunes. Et ensuite, on a eu des enfants, puisqu'on ne savait pas les éviter. Mais le bébé-boom, tout le monde sait ça, on oublie une chose, c'est qu'il a été fait surtout par des mamans de moins de 25 ans. Donc, c'est vous dire, à 23 ans, on avait 3 enfants.
Oui.
Donc, il faut s'imaginer, ces jeunes gens qui n'avaient rien, il y avait encore des tickets pour la laine de layette. Il y avait des... Oui, on couchait les enfants dans des tiroirs de commode, etc. On avait... naturellement, ils n'avaient pas leur chambre à eux, les petits, ni des peluches, ni rien du tout. Mais on s'est énormément engagé, et ces couples qui ont fait en moyenne 2,9 enfants, c'est-à-dire presque 3 enfants par couple, étaient extraordinairement encouragés par la politique familiale du moment.
Voilà, ça c'est un autre aspect.
Alors une politique familiale absolument sans précédent et qui n'a pas eu sa semblable dans le monde. La politique familiale française a été unique.
Dans votre ouvrage, vous écrivez que 46% du budget social,
46% du budget de la sécurité sociale allait à la famille.
Allait
maintenant
à la famille.
C'est 9%.
C'est énorme.
Et maintenant c'est 9%. Bon, ça veut dire que il y avait des sages un peu fous, comme par exemple Alfred Sauvy, qui ont inventé une politique familiale, pleine de risques d'ailleurs, mais qui avait choisi pour, en somme, faire repartir l'économie, pour permettre, assurer un avenir à la France, de favoriser les enfants, et particulièrement pour les jeunes ménages. Par exemple, on avait une prime spéciale si on avait des enfants à moins de 25 ans. On avait une prime spéciale si on avait des enfants rapprochés.
Oui.
Donc, tout était fait. Bon, les jeunes femmes enceintes ou les jeunes femmes avec un bébé ou avec plusieurs enfants avaient des cartes de priorité bleu, blanc, rouge et passaient devant
pour
tout le monde
les transports,
dans la queue.
Oui, pour prendre les transports.
Oui, je raconte par exemple que pour les autobus, on faisait la queue parce qu'il y avait très peu de transports en commun, très peu d'autobus, mais les femmes prioritaires, là, les femmes enceintes, les mères de famille, passaient devant tout le monde. Et même, il y avait des dispensaires partout où on devait aller pour des visites prénatales, et on nous donnait 100 francs.
100 francs, c'est oui. Ce qui représentait une somme quand même à cette époque,
non ? Il faut dire que l'inflation dans ces périodes-là était absolument phénoménale. Dans les années 46-47, l'inflation était de 45%. Enfin, c'était l'argent perdait sa valeur très très vite.
Mais pourquoi la République ?
C'était symbolique.
Voilà pourquoi.
L'État, la France, mettait vraiment toute son énergie et elle n'avait pas d'argent, donc on allait l'emprunter aux États-Unis, etc., pour une politique familiale. Ce qui fait que ces jeunes gens qui n'avaient rien se trouvaient avoir des allocations familiales assez rapidement qui représentaient 40-45% du budget. Et il faut se rappeler que ces allocations familiales étaient payées à la mère, au nom de la mère.
Et on se déplaçait pour leur donner à ces mamans.
Mais c'était des payeurs qui avaient des sacoches en cuir pleines de billets et qui allaient de maison en maison et qui n'étaient jamais attaqués. Essayez d'imaginer que la France était sillonnée par des payeurs qui, comme ça, allaient dans les campagnes, allaient monter les escaliers en ville, traverser les courbes, longer les rues, avec des sommes formidables dans leur sacoche, et on vous payait de la main à la main, comme ça.
Et en plus, c'était quand même dans une période où, pour le coup, la France était en reconstruction, il y avait quand même pas mal de misère, en plus.
Il y avait énormément de misère.
Ouais.
Il y avait, disons que tout le pays était dans la misère, sauf ceux quelques marchés noirs. Enfin, c'était pas grand-chose.
Mais ces hommes avaient donc d'autant plus de raisons de se faire attaquer, et ce n'était pas le cas.
Non, justement. Je crois qu'il faut s'arrêter un instant et demander au public de réfléchir à ça. Quand tout le pays était pauvre, eh bien, on attaquait beaucoup moins, on recherchait... Oui, peut-être qu'il n'y avait pas de bien... étalé, il n'y avait rien dans les magasins, il n'y avait rien à voler, etc. Je donne le nom, par exemple, dans mon livre, d'un de ces payeurs qui est devenu ensuite président de la Caisse nationale d'allocation familiale et qui m'a dit qu'il avait commencé avec ses billets dans sa sacoche et qu'il n'avait jamais été attaqué. Donc, je donne ce climat, si vous voulez, de misère. Donc, pas de tentation, mais en même temps, pas de facilité, pas de temps, pas de loisirs, mais en même temps, un engagement profond, beaucoup de sentiments, et du coup, une sorte de foi dans l'avenir. Ça ne peut pas être pire, donc on va faire des enfants.
On fait beaucoup base d'enfants. Très basse et de ce
et
fait,
on ne divorce pas.
Oui.
J'ai calculé que le taux de divorce pour les gens qui avaient des enfants était un divorce pour 16 mariages. Maintenant, c'est un pour deux.
Effectivement, il y a une grande évolution.
Voilà. Alors, on arrive comme ça, donc, dans cette France à la fois sentimentale, familialiste, nataliste et pauvre, où les femmes ne travaillaient que si elles étaient agricultrices ou avaient une activité à la maison. Mmh.
Mais elle recevait un salaire, je crois, en tant que maman.
Le salaire unique, ce serait trop compliqué à expliquer. C'était une somme qui était versée dans les foyers où n'entrait qu'un seul salaire. Par exemple, une mère célibataire, elle le touchait aussi. Et de même, quand la mère était au foyer et ne gagnait pas d'argent. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ce tableau doit être corrigé, noirci, par une loi de répression sexuelle terrible, qui était la loi de 1920, qui interdisait absolument de parler de contraception, même d'en écrire, d'en discuter, et encore plus d'en faire, de s'en procurer à l'étranger, et encore plus de l'avortement. Mais pas seulement l'avortement, tout ce qui touchait à...
Toutes les formes possibles de restriction des naissances.
Toutes les formes possibles de restriction des naissances étaient punies. Et alors, cela a retenti énormément sur la vie de ces jeunes ménages dont je viens de faire un tableau un peu idyllique.
Mais oui, parce que finalement,
et qui,
on a l'impression
en réalité,
quand même que...
étaient dans une grande misère sexuelle parce qu'ils n'osaient plus, après trois enfants qui braillaient dans un logement d'une seule pièce, on n'avait pas tellement envie d'en avoir un quatrième, un cinquième, surtout avec des très jeunes femmes. Donc, il y avait de plus en plus de ménages qui n'osaient plus faire l'amour parce qu'ils avaient vraiment peur d'avoir des enfants tout le temps. Néanmoins, l'avortement clandestin, c'est-à-dire le plus dangereux, celui qui était fait sans hygiène par des
sûr,
personnes...
Bien sûr, inutile, des femmes.
Par des personnes qui étaient véritablement des dangers publics. L'avortement clandestin était absolument énorme. Les chiffres, c'était à peu près un avortement clandestin pour une naissance, c'est-à-dire c'était du 700 000 par
voilà,
an.
Voilà, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Oui. C'est 700 000 naissances, on pense 800
000,
à peu près...
800 000 naissances, 700 000 avortements. C'est absolument épouvantable. Alors, à la suite de ces avortements, des femmes restaient stériles parce qu'elles s'étaient complètement infectées, etc. D'autres en mouraient.
Oui.
Et donc, c'était vraiment le tableau noir, si vous voulez, de cette période.
Et puis, à ce moment-là, pour bénéficier, entre guillemets, de cet avortement, il fallait également payer une somme très importante. Donc, toutes les femmes ne pouvaient pas, en plus, avorter ?
Non, ça, je crois qu'on se leurre un petit peu parce que dans les milieux populaires, elles faisaient ça entre elles aussi beaucoup. C'était pas tellement une question d'argent qui divisait les pauvres des riches. Il y avait autant d'avortements chez les pauvres, etc. Mais c'était épouvantable. Et donc, quand Madame le docteur Marie-Andrée Veilhallé a voulu attirer l'attention sur ce problème, elle est venue parler ici.
Ici, à la SMP.
Voilà, à l'Académie des sciences morales et politiques, pour dire que véritablement c'était une misère, un scandale épouvantable et qu'il fallait se pencher là-dessus.
Elle a eu un écho favorable ?
Alors, elle a eu un écho favorable ici même, à l'Académie des sciences morales et politiques, en tout cas de trois personnes, dont Marc Bögner, qui était le président de la Fédération protestante de France, Gabriel Marcel, qui était un philosophe catholique, et Georges Duhamel, qui était un grand écrivain de l'Académie française, mais qui était médecin, et donc avait été très sensible.
Donc, instance religieuse
alors,
et médecine se mettaient
voilà,
d'accord.
Exactement. Il y a eu donc un petit entrefilet dans le monde relatant cette communication. Et alors, moi, jeune femme, j'ai écrit à cette doctoresse que je ne connaissais pas à travers le journal, en demandant au journal de faire suivre. Et je lui ai dit, je pense qu'il faudrait que nous, les femmes, nous fassions une association pour essayer de promouvoir cette question, parce que les hommes, même les mieux intentionnés, ils bougeront pas. Tandis que nous, des mères de famille comme vous et moi, nous nous mettons vraiment en association pour essayer de faire au moins bouger la chose, comme dans les pays scandinaves ou dans les pays anglo-saxons, où ils n'avaient pas cette loi répressive. Et elle m'a répondu sur le champ. Je l'ai vu le surlendemain.
Ah oui, c'était très rapide.
À nous deux, nous avions 7 enfants de moins de 12 ans. Et donc, nous avons fondé une association. Elle m'a dit, on se donne 15 jours pour trouver des femmes assez courageuses, parce que quand même, on pouvait être arrêtées.
Oui, c'est vrai. Oui, bien
et
sûr.
Donc, nous avons appelé la Maternité Heureuse, notre association, qui est devenue le Mouvement Français pour le Planning Familial. Et j'insiste
en 1956.
J'insiste sur familial, planning familial, c'est-à-dire planifier sa famille. C'est pas du tout pour la liberté sexuelle. C'était pour favoriser les ménages et favoriser les familles.
Et des naissances heureuses.
Et des naissances heureuses et des familles équilibrées et qui n'aient plus peur comme cela tout le temps et des couples donc qui pouvaient s'aimer sans crainte. D'ailleurs, Marie-Andrée Veilhallé avait publié un livre qui s'appelait « La grande peur d'aimer » qui montrait bien et d'autre part, le journaliste Jacques Derogy qui nous a beaucoup aidés au début avait publié un livre qui s'appelait « Des enfants malgré nous ». Donc nous avons fondé ce mouvement qui a tout de suite eu énormément de succès. Et la seule chose que nous pouvions faire, c'était d'essayer d'abord d'enseigner aux étudiants en médecine qui ne savaient rien du tout sur ces sujets.
Voilà, c'est aussi un autre aspect de votre ouvrage, c'est que justement, en école de médecine, finalement, on ne sait rien sur
rien.
L'étude du
corps. On ne sait rien sur le. Oui, même la méthode Ogino était mal connue, etc. Et d'autre part, ce qui se faisait dans les pays scandinaves et les pays anglo-saxons. Donc, nous avons eu énormément de lettres, d'échos, d'adhésions, etc., etc. Et nous avons cherché à répandre les moyens de contraception qui étaient alors en usage, donc dans ces pays, et même la Hollande, qu'il faudrait que j'ajoute. Mais malheureusement, c'était des moyens quand même qui demandaient une manipulation, une attention, à savoir c'était vraiment pas quelque chose qui pouvait aider toutes les femmes. C'était trop compliqué.
C'était quoi, par exemple ?
C'était
des températures ?
Des diaphragmes à mettre dans le vagin, ce qui coupait absolument tout élan amoureux quand tout d'un coup, il fallait s'isoler. Ou alors des gelées spermicides. C'était des obturateurs, en somme. C'était pas du tout, ça n'agissait pas sur le cycle hormonal. Et puis, en 1965, arrive donc sur le marché la pilule, la fameuse pilule que Pincus a mise au point en 1956.
Oui, biologiste américain.
Et qui était la première fois au monde où on agissait sur le cycle. et où, en somme, on avait un véritable anticonceptionnel. C'était le premier anticonceptionnel qu'il y ait jamais eu. Alors, on l'a d'abord testé sur des portoricaines, d'ailleurs, et puis il est arrivé en France, donc en 1965, avec ordonnance, mais comme notre
mais
mouvement
la loi
de planning... La loi était contre,
oui.
Mais le mouvement du planning familial à ce moment-là avait à peu près 200 000 membres, et dont des milliers de médecins. Et donc la pression sur l'opinion était assez forte pour qu'on puisse au moins permettre de se procurer la pilule avec une ordonnance. Du coup, tous les médecins du planning faisaient des ordonnances, ce qui fait que quand la loi a été changée et a légalisé la contraception, c'est-à-dire en 1967... C'était déjà, la pilule était déjà, adoptée.
Dans toutes les maisons?
Non, pas dans toutes les maisons. Il y avait une résistance quand même. Rappelez-vous, par exemple, que la résistance de l'Église catholique était très forte. Et, curieusement, la résistance des communistes. Puisque les communistes disaient que c'était une médication américaine qui était voulue par des malthusiens et qu'il fallait beaucoup mieux faire des crèches et s'occuper des salaires, de monter les salaires, plutôt que la pilule. Ils étaient tout à fait contre. Et donc, communistes et catholiques contre, plus des gens qui pensaient que c'était chimique, etc., etc. Donc, c'était pas du tout dans tous les foyers. Mais ça a été quand même très rapide. Ça a quand même été très rapide et surtout, ça a changé complètement la vie des femmes. Là commence donc ce que j'appelle la révolution contraceptive, c'est-à-dire une période où les femmes vont être des acteurs numéro un. Elles vont être les décideurs de la procréation. Elles n'auront pas d'enfants si elles ne veulent pas. Elles ne peuvent pas en avoir forcément si elles veulent, parce que la nature n'est pas toujours aussi malléable. Mais elles vont être les décideuses. Et d'autre part, elles vont prendre une place de plus en plus importante dans l'éducation des enfants. Elles vont devenir les parents numéro un. Et puis en même temps, elles vont faire des études. Et puis, en même temps, elles vont se mettre à travailler avec une rapidité dans les pourcentages de l'évolution. Mais enfin, c'est quand même 1967, c'est la loi qui permet la contraception.
La conception.
Et c'est l'année où il y a eu autant de filles reçues au bachot que de garçons. À partir de là, elles partent en flèche.
Merci Evelyne Sulreau pour cette première émission en votre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille, publié chez Fayard en avril 2006. Je vous retrouve très bientôt pour deux autres émissions au fil des pages sur les deux grands sujets de ce même ouvrage, la révolution contraceptive et sexuelle et enfin la révolution génétique. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.